Ah, ben, il y a quelques pitchounes. C'est beau. Talita, Noélie, Nolan, et une petite là que je ne connais pas. Bienvenue. Bienvenue à tous les enfants. Bon, Yvonne l'a évoqué sans le dire, mais effectivement, cette semaine, on ne pouvait pas les rater. Un incontournable de cette semaine, les Jeux Olympiques. Ah, voilà. Avec les cinq anneaux représentant les cinq continents dans un souci d'universalité. Alors, médaille d'or pour la France en rugby à 7 hier. Et notre fils Julien, et avec sa jeune épouse, y était au Stade de France. 80 000 personnes avec des acclamations en veux-tu, en voilà. Avec Antoine Dupont, l'icône, l'idole de tout un pays. Bon, la Belgique a eu une médaille d'or aussi avec le contre-la-montre, avec Remco Evenepoel. Troisième, Wout van Aert. Ouais, et puis, il y a d'autres pays qui ont eu une médaille d'or ? Oui, certainement. Non, mais ici présent. Non, ah ben voilà, France-Belgique, médaille d'or. Magnifique. Alors, Pierre de Coubertin, c'est signé, hein ? Bien à vous, Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin, à la fin du 19e siècle, a relancé les Jeux Olympiques ou les Jeux d'Olympe, d'Olympie, qui se tenaient à Olympe, avec ses slogans bien connus, hein, plus vite, plus haut, plus fort, avec d'autres slogans aussi, l'important c'est de participer. Bon, participer, mais pas tout le monde, hein. On a mis 30 ans pour que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques et faire du sport. Pierre de Coubertin trouvait que ce n'était pas intéressant que les femmes fassent du sport et soient aux Jeux Olympiques. Ceci étant dit entre parenthèses. Et puis, je lisais sur Internet, il y a une expo au Louvre et qui parlait pour les Jeux Olympiques une invention moderne des racines antiques. Et oui, c'est des racines antiques. Les Jeux d'Olympie, mais aussi les Jeux de Corinthe, les Jeux isthmiques. Et vous voyez sur la carte, vous ne voyez pas, mais je vous le dis, c'est la route de Corinthe en haut. Et puis là, il y a le stade où avaient lieu les Jeux isthmiques, bien connus à l'époque, qui sont plus récents, qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Jeux isthmiques. Et ça nous rappelle Corinthe, ça nous rappelle Paul, qui a vécu à Corinthe, qui a lancé l'église de Corinthe, qui a écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe, et on s'aperçoit que Paul aime bien le sport. Pourtant, la tradition nous dit qu'il était petit, il était un peu ventripotent, il avait les jambes arquées, un peu comme les miennes, ventripotent, non. Et les sourcils à la Brejnev qui se rejoignaient, ça c'est, on n'a pas de photo de lui, mais voilà, c'était pas un physique, un physique un peu ingrat, mais Paul aimait le sport et va utiliser le sport pour parler de la vie chrétienne. Il va parler des athlètes et il va parler du sport, il va utiliser la métaphore du sport pour parler de la vie chrétienne, mais aussi, on va dire, de la vie de disciples. Et je finis ma mini-série. Il y a des grandes séries, il y a des mini-séries. Mini-série estivale sur la vie de disciple. On a vu « To be or not to be » un disciple, avec Jésus qui choisit ses disciples et non le contraire. Et puis, après, quand le disciple déjeune, quand il fait la fête parce que Christ est présent, quand il pousse des acclamations parce que Dieu est présent dans sa vie. Et puis maintenant, donc troisième, quand être un disciple, oui, devenir un athlète. Ça, c'est le programme, les amis. Et cette semaine, j'ai pris mes concordances bibliques, et j'ai repéré dans la Bible où il est question d'athlète ou de course, et je vous propose de faire un petit survol ce matin. Alors le sport aujourd'hui n'a pas toujours bonne presse, hein, on sait pourquoi, il y a des débordements. Dès qu'il y a quelque chose de bien dans le monde et dans la vie et dans l'humanité, il y a le mal qui reprend, dopage, etc. Mais il y a quand même des bonnes choses, des choses pertinentes pour nous dans cette comparaison. Il semble que le sport, l'athlétisme, la course, soit une bonne image de la vie chrétienne. N'est-ce pas ? Qui n'a pas connu dans sa vie l'essoufflement ? Je cherche toujours mon deuxième souffle. Le manque de conditions. Qui n'a pas connu le doux parfum de la victoire, mais aussi le goût amer de la défaite alors qu'on a tout donné. Qui n'a pas connu la tentation d'utiliser des moyens illicites pour y arriver ? Vous voyez, le sport, l'athlétisme, la course est une bonne image. Et j'ai relevé trois textes dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, la première lettre de Paul au chapitre 9, la deuxième lettre de Paul à Timothée, qui nous parle d'athlètes, de course, de sport. Et je voudrais vous lire simplement peut-être, non pas peut-être, le Philippiens 3, quand le disciple se met à courir. Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, ou pardon, ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis la course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Philippiens 3. Alors je vais faire sortir quelques pensées très simples, mais quand même assez exigeantes, de cette métaphore de la course et de l'athlète. Et je reprends l'expression de Coubertin, l'important c'est de, et je mets ce que je pense avoir compris de la pensée de Paul, inspiré par le Saint-Esprit quand il écrit, même cette métaphore sur le sport. L'important, c'est de courir. Alors il faut savoir que participer à la course, quel que soit l'endroit de l'Empire, je parle de l'Antiquité, de l'Empire romain, il fallait être citoyen. Il ne fallait pas courir pour obtenir la citoyenneté, comme aujourd'hui. Non, à l'époque, tu es citoyen, maintenant tu peux participer à la course, tu peux entrer dans l'épreuve sportive qui t'est proposée. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Tout commence par une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que vous êtes qualifié pour la course. Vous n'avez pas besoin de passer des sélections. Vous n'avez pas besoin de passer des tours préliminaires. Vous n'avez pas besoin de passer des tours de qualification. Vous êtes déjà, en tant que chrétien, ipso facto, qualifié pour la course de la vie chrétienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une course, et vous avez reconnu peut-être le texte d'Hébreux 12, peut-être, hein, mais il y a une course qui nous est proposée, environnée par un si grand nombre de témoins. Et là, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, qui n'a pas été écrit par Paul, enfin on ne sait pas, mais il est question vraiment de stade, environné d'une grande nuée de témoins, comme s'ils étaient tous dans le stade qui vous encourage, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, ça ressemble à Philippiens 3, n'est-ce pas ? Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une épreuve, une course qui nous est proposée, elle est là, on est qualifié pour le faire. Vous êtes, en tant que chrétien, qualifié pour la course, pour cette épreuve qui nous est proposée. Encore faut-il que nous en prenions conscience, qu'il y a une course devant nous, qu'il y a une épreuve qui s'ouvre à nous. Je me souviens au JO d'Atlanta en 1984, je vous fais part ce matin de ma culture sportive. Bon, j'ai hésité entre la théologie et le sport, j'ai choisi la théologie, le sport n'a rien perdu, la théologie n'a rien gagné, mais voilà, c'est là. Mais j'aimais beaucoup le sport. Mais au JO d'Atlanta en 1984, je crois que c'est là où il y a un type qui arrive dans les airs avec des rétros, avec des fusées dans les pieds. Là, bon. L'équipe de France, à l'époque, s'est fait remonter les bretelles parce que la plupart des athlètes étaient juste contents d'être au village olympique d'Atlanta, en Géorgie. Et le chef de la délégation les a réunis et a dit « Et les gars, et les filles, on est là pour des médailles ». Pas juste pour baguenauder dans le village olympique. On est là pour courir et pour concourir. Et dans la vie chrétienne, il n'est pas envisageable, imaginable, de rester couché à longueur de journée, à se laisser aller à la paresse intellectuelle, spirituelle, sous prétexte qu'on est sous la grâce, cette grâce qui ne coûterait rien, cette grâce à bon marché, comme le disait Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur résistant au nazisme, mort dans une prison, exécuté dans une prison là-bas, nazie. Non, il faut dans la vie chrétienne une mise en action, il faut un petit peu de dynamisme, du mouvement, de la mise en déséquilibre pour marcher, voire même courir. Alors attention, il ne s'agit pas de courir pour courir, hein, courir pour faire toutes les activités des enfants, le foot, le solfège, aller chez Picard, le groupe de maison, le week-end d'église, etc. Non, mais il faut nous mettre en mouvement. Et je n'hésite pas, vous savez que l'Église participe, anime les cultes au Bouguin deux fois par mois. Et moi, je n'hésite pas à parler comme ça à ces résidents qui sont pour la plupart en chaise roulante, en disant il faut vous mettre en mouvement, les amis. J'ai parlé d'être un disciple qui suit le Christ. Mais j'ajoute que tout se passe dans la tête, ou dans le cœur, ou dans la vie spirituelle en mouvement. Dans la vie chrétienne, il y a du mouvement dans l'air. Il y a une épreuve qui nous est proposée, et je souligne que Paul, dans Philippiens, insiste pour dire, précise, « Je continue à courir, je continue de le faire. » Il y a la tentation d'abandonner. Il y a la tentation de ne jamais partir. Did not start, DNS en athlétisme. Il n'est pas parti, ou il a abandonné en cours de route. Mais je continue de courir. Et il y a parfois la tentation de ne plus se mettre en mouvement, de rester spectateur de sa propre vie, mais le Seigneur nous appelle à nous mettre en mouvement. J'utilise encore cette icône belge du chat par Philippe Geluck. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, mais je trouve ça sympa. Courir, ça ne sert pas seulement à arriver le premier, ça sert aussi à arriver le deuxième, troisième et quatrième. En gros, ça sert à arriver. Je trouvais ça pas mal. Et puis, deuxième point, l'important, c'est de courir. Soit, mais vers le but. Le but, d'avoir un but, de saisir le prix. Alors, à l'époque, on sait bien ce que l'on gagnait, une couronne de laurier ou du persil, qui pouvait contenter le premier imbécile venu. Vous voyez l'image à droite, il a l'air imbécile quand même avec son truc de laurier. Alors, il y a la médaille d'or de Paris 2024. Mais on sait bien que Paul, il parle d'un autre but, de saisir un autre prix que des plantes séchées. Et ce prix, c'est Jésus-Christ lui-même. Il le dit dans Philippiens 3, « Mon but est de saisir le Christ. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rajoute, « Comme moi, j'ai été saisi par le Christ. » Comme moi, j'ai été saisi dans son amour. Comme moi, j'ai été intégré dans la course. Comme Christ m'a saisi dans sa grâce, je vais vivre pour m'en saisir et je vais vivre avec, pour lui et par lui. Et il le dit plutôt dans sa lettre aux Philippiens, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. J'y gagne en mourant parce que je vais retrouver le Christ, je vais rejoindre celui qui est le centre de ma vie, le prix de ma course. » Et tout le texte nous parle de sa détermination, de sa concentration sur le prix, oubliant ce qui est en arrière, c'est de ne pas être amnésique, mais oubliant ce qui est en arrière et qui pourrait me tirer vers le bas, mes défaites comme mes victoires, il y a des victoires qui nous tirent vers le bas, on se repose sur ces lauriers. Oubliant tout cela, je tends vers le but. Et il y a une image que l'on montrait quand on faisait le parcours vitalité, c'est cette image de la lionne. Elle est magnifique parce que, qu'est-ce que vous voyez dans cette lionne? Moi, ce que je vois, c'est le regard. Elle est concentrée, tout son corps musculeux est tendu vers un but. Et le but, ça ne semble pas être aller au restaurant avec le roi lion. C'est peut-être un phacochère, une petite biche, une gazelle, une impala toute mignonne, mais qui va se faire. Bon, bref. Et vous regardez la tête, elle a l'air paisible, tendue vers ce qui est en avant, tendue vers le Christ. Et pour rester concentré vers le but, il y a Paul, le coureur aux jambes arquées, qui s'exerce à quelque chose qui ne nous est pas habituel. C'est la discipline. Parce qu'il y a encore deux autres lettres qui sont très tristes à lire à la fin de la course en athlétisme, c'est DQ, disqualified, disqualifié. Et il y a bien une chose que Paul veut éviter à tout prix, c'est la disqualification. Il en a même peur, plus peur que la mort, par exemple. Attention à la disqualification. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Il parle de la vie spirituelle, de la vie de disciple, de la vie chrétienne. Et regardez ce qu'il fait. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Ben oui, les lauriers, le persil. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette et je m'exerce à la boxe, non pas pour donner des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Paul n'a pas peur de la mort, parce que pour lui, mourir lui est un gain, car Christ est sa vie. Mais il a peur de la disqualification. Et pour cela, il s'impose une sorte de discipline. Oh, fait peur ce mot. Et on ne sait pas trop dans quel domaine il s'exerce à la discipline, mais on sait que Paul connaît ses points faibles, ses échardes dans la chair, comme nous connaissons les nôtres, et il se surveillait pour ne pas être disqualifié. Il y a un autre texte que j'ai lu et que je trouvais intéressant quand il écrit à Timothée, dans le sens de développer le sens de la discipline personnelle. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté les règles. On ne l'a jamais vu. Enfin, si, on l'a vu. C'est pour ça que je dis vraiment, vraiment. Alors aujourd'hui, si, on a vu, avec Lance Armstrong, avec Ben Johnson, avec Florence Griffith Joyner, avec Cornelia Ender, de l'Allemagne de l'Est, dans les années 60, tous dopés, tous tricheurs, mais tous rattrapés. Florence Griffith Joyner, vous savez, avec des ongles de 12 cm, en 88 à Séoul, elle a tout de suite arrêté parce qu'elle était soupçonnée de dopage. Elle est morte 10 ans après, 39 ans, crise cardiaque. Ben Johnson, n'en parlant pas. Lance Armstrong, je ne sais pas ce qu'il devient, mais 5 fois le Tour de France. On est rattrapé quand on triche. Retrouver le sens de la discipline. Méditer pour nous, peut-être. Aiguiser notre sens de la discipline spirituelle. Reconnaître nos points faibles et travailler nos défenses. Trouver des gens de confiance qui vous accompagnent dans la course, qui connaissent vos points faibles et qui vous accompagnent, qui vous protègent de vos vieux démons, de votre talon d'Achille, de vos zones de tentation. Développer le sens de la discipline personnelle, pas pour le sport, mais pour la vie spirituelle, pour la vie tout court. Et puis, troisième point, l'important, c'est de courir ensemble. Et là, on rejoint l'aspect communautaire, parce que dans le royaume de Dieu, dans l'Église, il y a l'aspect individuel, il y a toujours l'aspect communautaire avec. Et s'il s'agit de courir, il s'agit de courir ensemble. Seulement, parce que dans l'Église de Philippe, ça vient juste après, je cours vers le but. Seulement, dans l'Église de Philippe, il y avait, comme dans toute Église, des discordes, des problèmes, des frottements, des frictions. Et il dit, seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons ensemble. Continuons à marcher ensemble dans la même direction. Et vous savez que le CIO, on en parlait avec Mathias là, a changé. Au début, c'était Siltius, plus vite. Ah, là, il y a l'autocorrection, c'est Altius, plus haut, plus fort. Et ils ont rajouté à Tokyo 2020 ou 2021, communautaire, en latin, ensemble. Mais c'est intéressant, en latin communitaire, communauté. Il y a Johan Dinitz, le champion du monde, qui a le recordman du monde du 50 km marche, il est français, qui disait, parce que la marche c'est individuel, hein, on les voit, ils sont tout seuls, et il dit non, c'est un sport collectif. Il a besoin d'une équipe autour de lui, il a besoin d'une communauté. Alors Philippiens 3,16 dit, là où nous en sommes arrivés ensemble, au point où nous en sommes arrivés. Alors, il ne développe pas le point, mais on peut penser qu'ils sont arrivés ensemble à l'Évangile, à la bonne nouvelle, à Jésus-Christ crucifié et ressuscité, au point où nous en sommes parvenus. Avançons ensemble. C'est une des valeurs de notre union d'Église. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté, en toute chose, charité, amour, dans les choses essentielles. Et cet essentiel-là, c'est l'évangile de grâce et de justice en Jésus-Christ. Je termine par une illustration, ce point-ci en tout cas, avec une illustration donc qui vient du chat aussi. Je m'excuse pour les personnes, mais pour le français, c'est un jeu de mots. Où cours-je ? J'irai où mes potes iront. Ensemble, on va vers le Christ. Et puis, point 4, l'important, c'est de bien finir la course. Il n'y a rien de pire et de plus triste que ces trois lettres qui s'affichent à la fin d'une course en athlétisme. DNF, did not finish. Il n'a pas fini. Did not start, disqualified, did not finish. N'a pas fini la course parce qu'il est tombé, parce qu'il a un claquage musculaire, soit qu'il s'est fait disqualifier, soit qu'il n'a pas continué la course. Et on vit des arrêts dans la course ou des ralentissements où on n'a plus d'énergie, où on se demande si on ne va pas laisser tomber, à quoi bon ? Mes chers amis, il faut finir. On pense à Paul qui, à la fin de sa vie, écrit à Timothée et qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. » C'est-à-dire, dans le langage de Paul, il a achevé son ministère, son service pour Dieu, ce pourquoi il a été appelé, comme tout un chacun, nous avons été appelés à vivre une vie de disciple, on l'a vu. Et il le dit d'ailleurs quand il rend témoignage à la fin de son périple dans Acte 20, « Je ne fais aucun cas de ma vie, dit Paul, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, le « et » mon service peut être traduit et peut être traduit, c'est-à-dire ma course, c'est-à-dire mon service, qui est pour Paul, mais pour chacun d'entre nous aussi, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, donne témoignage par ma vie, par mes paroles, par mes actes, ma vie chrétienne, ma vie de foi. C'est ça la course, c'est-à-dire mon service, c'est-à-dire ma mission. Quelle bénédiction de pouvoir dire à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. Et je voudrais vous parler, pour terminer, une dernière illustration de la grand-mère du côté maternel d'Yvonne. Et vous voyez une image, elle s'appelait Kay Wallet. Et là, on voit son mari, 1907-2001. Kay Wallet, missionnaire, pendant la Grande Dépression dans le sud de la Californie, très pauvre, dans les années, fin des années 20. Missionnaire pendant 30 ans au Japon, on le voit. Ils ont pris le kimono. Et nous l'avons rencontré dans sa maison de retraite, dans son manor à Long Beach, California, en 2001, en juillet 2001. Et là, elle organisait depuis des années, chaque semaine, un culte. Et elle avait mis des affiches avant d'être venue, des affiches partout pour le culte de vendredi après-midi. The Vanderdoos family, la famille Vanderdoos est là. From the dark continent, du continent sombre, l'Europe. Et j'ai dû prêcher en anglais. On a chanté avec les enfants, les personnes âgées, il y avait une trentaine de personnes âgées là. Et puis elle dit, ce sont les enfants de Kay. Et donc toute l'après-midi, on a dû faire le tour de la maison de retraite. Là, j'étais moins content quand même parce que ça a pris du temps. Mais Kay Wallet, 95 ans, papa, toute fluette, toute maigrichonne, mais quelle pêche! Et elle est partie le 10 septembre 2001. Ça vous dit quelque chose, le 10 septembre 2001? Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Et toutes les familles, on était tellement heureux qu'elle soit partie le 10 septembre 2001 et qu'elle n'ait pas vécu ce 11 septembre 2001. Mais qu'elle vit cette Kay Wallet, missionnaire en Californie, missionnaire au Japon pendant 30 ans, missionnaire dans sa maison de retraite, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et elle pouvait dire, et on le dit pour elle, elle a achevé sa course. Elle a gardé la foi. Gloire à Dieu. Merci pour elle. Merci pour Kay Wallet. Et pour achever la course, pour garder la course, j'ai parlé tout à l'heure du sens, de développer en soi le sens de la discipline, mais aussi développer le sens de la grâce. Et Kay Wallet était prise par cette grâce. Parce que nous ne sommes pas des machines à aller plus haut, plus vite, plus fort. Nous sommes des êtres humains, des fils et des filles que Dieu aime. Et comme le disait saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Et ce qu'il nous demande, c'est de courir cette vie chrétienne, courir dans la foi, mais il nous donne ce qu'il ordonne, il nous donne aussi le moyen de courir avec sa grâce, sous sa grâce, par sa grâce. Cette grâce qui nous permet de nous relever quand nous avons chuté sur la piste, quand nous avons mordu sur la piste, sur le couloir de l'autre. Dans sa grâce, il nous permet de nous relever, même si nous avons été disqualifiés à un moment. Sa grâce nous permet de nous relever et de recommencer la course un peu différemment, en boitant un peu parce qu'on vient de se casser la figure, on claudique. Mais on continue la course, par sa grâce et pour lui. Je termine vraiment avec une citation de Jean-Paul Chong, qui était pasteur dans l'Union des Églises Libres, qui était chinois, d'origine chinoise, qui avait un petit peu d'embonpoint comme Paul, mais ultra sympa. Et voilà ce qu'il disait dans le Fac Réflexion, c'était le magazine de la faculté de Vaux-sur-Seine, de théologie. L'humilité pour le serviteur du Christ, c'est-à-dire nous tous, hein, consiste à descendre au fond de lui-même pour rencontrer la vérité de son être pécheur devant Dieu, vivant de la grâce seule. Mais cette descente n'est qu'une étape en vue d'une remontée. Quand je suis faible, et là, il cite Paul dans 1 Corinthiens 12, c'est alors que je suis fort, car le Seigneur nous veut debout. Ainsi, Si l'humilité est vraie, elle ne noie pas le chrétien dans sa faiblesse, elle le rend plutôt semblable à un athlète qui se ramasse, c'est-à-dire qui se replie sur lui-même, se fait petit, l'humilité, mais qui accumule ainsi un potentiel de force qui lui permettra de mieux s'élancer ensuite. Oui, on sait qu'on est pécheur, mais la grâce nous relève, on prend conscience de notre faiblesse, de notre péché, on se recroqueville peut-être, pour mieux s'élancer sous la grâce de Dieu. Je remets tous les points de cette prédication. Ah non, dernier, le chat encore, je l'aime bien, je reste pourtant un mordu du jogging, alors qu'il se fait mordre le fessier gauche par un chien. On reste par sa grâce. Les mordus de la course pour saisir le prix qui est Jésus-Christ lui-même. Liste des points, où en êtes-vous dans la course ? Je vous les laisse quelques instants. Ça, vous avez souvenir de cette prédication. Et se poser la question, tiens, où est-ce que j'en suis dans la course ? Est-ce que j'ai besoin de développer le sens de la discipline spirituelle ? Est-ce que je dois développer le sens de la grâce ? Est-ce que je dois me mettre à courir ? Est-ce que je n'ai pas la tentation de courir toujours tout seul ? On a lu Hébreux 12, vous savez, le stade environné d'une grande foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, on s'était arrêté là, les yeux fixés sur Jésus. Et on va chanter un chant qui nous permet de fixer nos yeux sur Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et le texte d'Hébreux 12 continue en disant « Il a enduré la croix pour nous, enduré avec le mot « endurance » dedans. Il a persévéré pour que nous puissions vivre libres, pour que nous puissions vivre sous sa grâce, pour qu'il nous a dégagé la piste, pour que nous puissions courir avec lui. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Prier ensemble en restant debout. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés, tu m'as aimé. Merci parce que tu m'as remis dans la course, tu nous as remis dans la course, alors que nous étions irrémédiablement disqualifiés par le péché, par ce mal qui nous colle à la peau. Seigneur, merci parce que ta mort sur la croix nous a libérés de ce qui nous écrasait sur la piste, le mal, le péché, mon péché, le tien. Seigneur, par ton esprit, donne-nous de reconnaître notre besoin de toi, besoin de cette grâce qui nous libère, qui nous ouvre un espace de liberté devant, qui nous ouvre un avenir éternel. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous interpelle, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans la course, à bout de souffle, au démarrage, ou alors que nous venons d'arrêter ou de ralentir, ou d'avoir été disqualifié pour quelque chose qui serait advenu. Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et sur ta grâce. Relève-nous et remets-nous, Seigneur, dans la course et que nous puissions la courir dans la paix avec toi, sous ta grâce, mais avec tout l'enthousiasme dont nous avons parlé tout à l'heure, avec toute la dynamique de ton Esprit Saint, avec toute la puissance de ton Esprit Saint. Merci Jésus pour cette épreuve que tu nous proposes avec toi. Que ton nom, Seigneur, que ton nom victorieux, que ton équipe toujours victorieuse, comme le disait Yvonne tout à l'heure, puisse nous accompagner. Au nom de Jésus, en ton nom. Amen.